1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix ce soir autour de vous. Nathalie, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Alexis Poulain, le fondateur du site Le Monde Moderne.
Nous y voilà enfin les grandes voix, bienvenue à tous. Merci d'être à mes côtés dans ce studio. Je voudrais qu'on regarde de près la nouvelle ère qui peut être en train de se dessiner sous nos yeux chez les Républicains. Parce que ça y est, Christian Jacob a créé son conseil stratégique dont François Baroin fait partie. Alors allons-y, commentons Gérard Carrérou pour démarrer. Ça y est, l'enfant prodige, François Baroin, le sauveur. Ça y est, on a le visage, le nom de celui qui va relancer la droite.
Alors vous allez peut-être un peu vite en besogne. D'abord parce que l'élection est quand même dans 2 ans et demi. Enfin, la campagne, ça sera dans 2 ans et demi. Ensuite, il n'y a pas pour l'instant de parti républicain. Enfin, il y a des ruines. Il y a des ruines, mais il faut reconstruire un parti, parce qu'on ne peut pas être candidat dans le vide. Il faut être candidat à partir de quelque chose de solide. Alors si, effectivement, les Républicains arrivent à avoir de bons résultats aux élections intermédiaires, aux municipales, et puis ensuite aux régionales, s'ils arrivent à avoir un programme convaincant entre le programme du président de la République et le programme du Rassemblement national, alors tous les espoirs seront permis, effectivement, à quelqu'un comme Baroin. Bon, disons qu'il a de solides références, d'abord parce que c'est un ancien journaliste politique d'Europe 1, donc c'est déjà,
voilà, ça c'est fait.
C'est déjà pour l'opinion quand même quelque chose de prometteur.
C'est un capital.
Non, il a des références politiques sérieuses. Il est l'enfant du gaullisme. Son premier mentor a été Robert Gallet, qui était ministre de la Défense sous Pompidou. Il a été le protégé de Jacques Chirac, notamment après la mort de son père.
C'est un bébé Chirac,
mais en même temps, il a été aussi un proche de Sarkozy, très proche de Sarkozy. Donc, il a vraiment les parrainages de toutes ces grandes figures. Bon, ça ne suffit pas. Il faut qu'il en ait d'abord très envie.
Voilà, alors c'est ça, c'est tout le problème. C'est un retour remarqué, clairement, pour François Baroin dans les rangs des Républicains. Il n'avait pas quitté le parti, mais il s'en était clairement éloigné. Là, on a Guillaume Pelletier, Aurélien Pradier qui devient secrétaire général et donc François Baroin. Mais la question, c'est ça, Alexis Poulain, c'est l'envie. François Baroin, ça a souvent été le sujet.
Eh ben oui, c'est est-ce qu'il en a envie ou pas, et qui d'autre en a envie aussi, parce que il faut voir comme les Républicains ont été malades depuis longtemps de ces luttes fratricides. Il y avait le livre d'ailleurs de l'ancien député européen qui parlait de ces grands requins blancs dans un aquarium. Alors c'est peut-être plus des grands requins blancs maintenant, ils ont les dents un peu émoussées, mais il y a toujours des envies. Enfin, on va pas oublier Xavier Bertrand qui est dans le Nord quand même à quelques
Valérie Pécresse.
Et puis Nicolas Sarkozy, qui est encore arbitre et encore... Là, bah regardez, il représente la France au Japon à l'autorisation de l'emploi.
Non,
mais ça reste quelqu'un qui a aussi potentiellement des envies de tuer, encore de mordre, et de faire en sorte que ce parti-là obéisse encore à quelques envies politiques. Donc ça dépend de ses envies personnelles, mais pas que. Et puis ça dépend bien sûr de l'état dans lequel le parti va se retrouver d'ici 2 ans. Est-ce que les Républicains vont trouver une place? Est-ce que Emmanuel Macron va laisser cette place à droite? Rien n'est moins sûr, puisqu'il est très fort pour aller grignoter sur les terres des uns et des autres, notamment en campagne. Donc voilà, tout reste
évidemment
ouvert.
Évidemment que tout reste ouvert, Mickaël Darmon, mais la lecture quand même, c'est que François Baroin, quand il dit non. Et il y a quelques mois encore, quand on lui posait de la question, véritablement, c'était non l'envie, c'était non, et il se crispait. Aujourd'hui, il se crispe moins. C'est ce que nous disait d'ailleurs Aurélie Herbemont autour de ce plateau il y a quelques instants. Là, peut-être, y aurait-il un tournant? Une
Alors,
amorce de tournoi.
Oui, mais avec François Baroin, il faudra faire attention à ce qu'il ne devienne pas le candidat des journalistes. Parce que la réalité, c'est quel espace politique? Il vient maintenant rejoindre un parti aux côtés de Christian Jacob, qui s'est quand même beaucoup déplacé sur la droite. L'électorat de LR est très conservateur, alors que nous avons, avec Jacob et avec Baroin, des héritiers de cette droite chiracienne, centriste, UMP, sarkozyste, et qui, au fond, devra répondre aux questions que posera l'électorat, notamment dans la Fédération de l'Hérault, lorsqu'on prône ouvertement un rapport avec le Rassemblement national. Or, eux, c'est le cordon sanitaire chiracien, jamais d'alliance, jamais de rapprochement. Donc, la question, c'est pas tant, au fond, est-ce qu'il en a envie, mais est-ce qu'il en aura la possibilité politique et l'espace compte tenu de également l'évolution de l'électorat de LR.
Alors on va évidemment interroger nos auditeurs, plutôt ils vont peut-être vous interroger au 39-21, c'est dans un instant sur ce sujet.
Vous pouvez également réagir et interpeller les grandes voix sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Alexis Poulain, le fondateur du site Le Monde Moderne. Vous pouvez bien sûr les interpeller en direct, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21.
La nouvelle direction des Républicains a été annoncée aujourd'hui même. François Baroin a fait son entrée au conseil stratégique du parti, ça fait beaucoup parler. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bruno, vous nous
bonsoir.
Appelez depuis la Vendée, Bruno Baroin. François Baroin, cela vous inspire plutôt, cette équipe renouvelée, ces ténors et François Baroin qui peut compter ?
Ben, je crois que Jacob est en train de nous bâtir une fusée. Et là, on est au premier étage de la fusée. D'abord, oui. Ben, Baroin, c'est un candidat sans tâche, pas clivant, etc. Ensuite, Baroin et toute la composition du bureau politique montrent une stratégie. Je crois que Jacob a fait attention à bien ménager toutes les susceptibilités.
Pas toutes, parce que regardez, pour l'instant, Guillaume Larrivé et Julien Aubert...
Les anciens candidats.
Voilà, exactement. Et pourtant, il avait dit, c'est la famille, là, on est vraiment dans le rassemblement. Mais allez-y.
Mais surtout, et je crois aussi que Baroin, et ça, c'est pas anodin à mon avis, représente la France d'en bas, la France des territoires. C'est pas anodin d'avoir pris le président des maires de France.
Ouais.
Alors ça, c'est le premier étage de la fusée. Par contre, le deuxième étage de la fusée, sans lequel la fusée ne décollera pas, il va falloir un projet politique.
Et c'est ça. Le projet politique, c'est ce que disaient Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Alexis Poulain. Évidemment, merci beaucoup Bruno de votre appel. C'est ce qu'on disait parce que... C'est pas mal la version de Bruno, c'est très optimiste, il voit le verre à moitié plein quand même. Mais Baroin, c'est vrai que c'est l'éternel espoir. Et puis il y a l'appareil, il y a le projet, on est quand même très coincé, en quelques mots.
Oui, là c'est d'abord le projet, c'est la clarification. Parce que entre la ligne Wauquiez et ce que sera la ligne Jacob et puis ce que sera le prochain candidat, il va falloir vraiment clarifier en disant mais qu'est-ce que c'est que les Républicains, sachant, je le rappelle, que Emmanuel Macron ne laissera rien sur quelques sujets qui sont chers à la droite en général et qu'il va récupérer, notamment l'aspect économique et même identitaire. Enfin, on voit bien comme il se saisit du débat sur l'immigration. Donc il y a une vraie question de la clarification du projet. Il y a très peu de temps pour le faire.
Il me semble. D'abord, premièrement, électoralement, il y a de la place. On a en gros deux forces entre 25 et 30% qui sont la force de Macron d'un côté et la force de Marine Le Pen de l'autre. Il reste quand même au milieu 40%. Vous me direz, il y a aussi la gauche. Mais enfin, ces 40%, ça fait 2 fois 20 si on compte déjà. Donc, c'est pas rien. Et il y a des terrains, peut-être, j'imagine assez bien... Baroin, vu son parcours, un peu ce que je sais de lui en discutant avec lui depuis longtemps, ça peut être un républicain laïque, sourcilleux, un peu, je dirais, un peu de valse là-dedans. Donc, différence avec Macron, dont on dit à chaque fois, alors, il ne se prononce pas clairement. Et puis, sur un autre terrain, ça peut être l'héritier de ce gaullisme social dont on parle souvent, mais qu'on n'a pas vu beaucoup dans les derniers temps, un gaullisme très social.
Alors, peut-être de la place donc, sur les sujets régaliens, nous dit Gérard Carrérou. Sauf que, pardonnez-moi, Mickaël Darmon, mais moi, sur les sujets sur lesquels on pourrait les entendre, les Républicains, l'écologie ou même des propositions économiques, à chaque fois, ils sont court-circuités, depuis un moment déjà, par Emmanuel Macron.
Mais l'enjeu pour cette droite qui essaie de se reconstruire, ce sera d'essayer et surtout d'arriver à parler d'autre chose que immigration, des déficits publics et baisser les impôts. Il va falloir qu'ils inventent parce que tout simplement les sujets contemporains sont totalement ailleurs et les Français, même s'ils sont conscients de certains problèmes, ne se lèvent pas tous les matins en se demandant où est le voile autour de moi. Ils regardent aussi l'éducation et leur vie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la technique également. C'est-à-dire qu'il faudra décider comment désigner le candidat à l'élection présidentielle du parti. Or, le premier geste politique de Jacob a été de fermer la primaire et de dire je suis contre la primaire. Donc, comment vont-ils désigner maintenant le candidat, sachant que Laurent Wauquiez, après les municipales, prépare un retour sur la scène politique. Et là, on peut avoir aussi un affrontement entre deux rapports évidemment au sein de la droite, entre celle de Baroin et celle de Wauquiez. Ouais. Et là, les ennuis peuvent peut-être recommencer.
Mais dans les deux cas, c'est une droite qui va se concentrer sur les territoires. Ça, c'est important à souligner parce qu'En Marche est très pauvre, finalement, par rapport à ce qu'ont comme base
territoriale. Mais Macron avait été au second tour et élu aussi avec les campagnes.
Oui.
Un an pile, presque. En fait, précisément, un an pile après les premières initiatives sur les réseaux sociaux qui donneront lieu au mouvement des Gilets jaunes. Eh oui, c'est ça. On est précisément aujourd'hui dans cette date du 23 octobre, à ce moment où quasiment Jacqueline Mourot, avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux, vous en souvenez, lançait « Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?» Vidéo très vite devenue virale. Et puis évidemment, 17 novembre, anniversaire de ce mouvement des Gilets jaunes avec les premiers ronds-points pris d'assaut. On s'interroge ce soir, qu'est-ce qu'il en reste ?
Il n'en reste pas grand-chose en apparence. Il n'en reste pas grand-chose en apparence, mais ça ne veut pas dire...
À La Réunion, ils étaient présents pour accueillir
Emmanuel
Macron.
Oui, il y en avait 200 quand même à La Réunion. Ouais. Donc, non, je crois qu'il reste quelque chose qui est... qu'est-ce que c'était les Gilets jaunes au départ ? C'était un ensemble de frustrations, d'insatisfactions, de colère, etc., qu'on a décrit avec les territoires isolés, les territoires perdus de la République, etc. Et elle s'est manifestée, cette colère, par des violences à certains moments qui l'ont un peu discréditée, etc. Mais les ferments de la colère, si j'ose dire, en citant Steinbeck, les raisins de la colère demeurent intacts. Et à la faveur, s'il y a une crise, je ne sais pas s'il y aura de grandes manifestations contre les retraites à partir du 5 décembre, mais s'il y a des grands mouvements dans le pays, il est bien clair que les Gilets jaunes vont se réveiller et s'agréger d'une forme ou d'une autre.
C'est ce qu'on, aurait pu d'ailleurs voir, et c'est ce qu'on n'a pas, pas repéré lors des premiers mouvements, là en septembre, Alexis Poulain. On a parlé de coagulation systématiquement, etc. On ne les a pas vus ?
Non, mais alors oui, effectivement, parce que les syndicats descendent pour des raisons bien particulières et vous avez chaque métier qui était dans la rue chaque semaine, mais personne ensemble. Et ce n'est pas dans la rue que ça va jouer, je pense. Effectivement, les Gilets jaunes ont été un mouvement visible. C'était la France des invisibles qui se rendait visible avec ce gilet qui voulait dire qu'on était sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'on demandait à l'aide. Et la réponse a été très longue à venir. Et plutôt à côté, et l'impression qu'on essayait de passer la crise, et pourtant tous les samedis, ils sont encore là, certes moins nombreux dans la rue, mais ce que je dis encore, c'est plus dans la rue que ça va jouer. Je pense que derrière, il y a un mouvement profond qui s'est fait de gens qui n'étaient pas forcément politisés, qui vont se politiser, qui ont compris.
Qui vont se structurer selon vous ?
Forcément au sein d'un mouvement autre, mais qui vont de toute façon trouver des écuries politiques ou pas, et contester, et continuer la contestation.
Souvenez-vous des européennes, c'était pas le cas. Mais attendez, on en reparle dans un instant, vous voulez bien ? Alexis Poulain, Michaël Darmon, évidemment. Et Gérard Carrérou, on se retrouve dans une seconde.
Et pour interpeller les grandes voix, c'est le 39-21 qu'il faut composer dès maintenant. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h ce soir. Gérard Carrérou, Michaël Darmon et Alexis Poulain, le fondateur du site Le Monde Moderne, et toutes vos réactions en direct 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et au téléphone avec nos auditeurs. Olivier, bonsoir à vous. Bienvenue au micro d'Europe 1 depuis la Seine-Maritime. On parle évidemment des Gilets jaunes parce que ce sera bientôt les 1 an de ce début de ce mouvement. Vous dites quoi aujourd'hui ? Vous dites effectivement 1 an et fermer le banc ?
Et bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Écoutez, j'abonde un petit peu dans ce qui a été dit, dans le sens où effectivement le mouvement est moins visible. Par contre, pour ce qui est des fondements même du mouvement, je crois que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Les vrais gens qui sont dans la vraie vie, quand ils vont à la pompe, le carburant, il est à quel prix en ce moment ? Il est à 1,40 pour le gasoil. Donc on est sensiblement au même prix qu'il était au début de la crise des Gilets jaunes. Le recul des services publics dans une commune comme la mienne où le centre des impôts est menacé de fermer, les services d'urgence, toutes ces choses-là ne sont pas réglées du tout.
Vous vous dites qu'au moindre événement, ça repart, ça peut repartir dans les mêmes proportions qu'il y a un an ?
Je ne sais pas, parce que le gouvernement a joué le pourrissement du mouvement, ce qui fait que il y a énormément de revendications contradictoires qui se sont agglomérées les unes aux autres, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'était devenu complètement inaudible pour la plupart des gens qui étaient des citoyens, entre guillemets, normaux, des gens qui n'étaient pas syndiqués, des gens qui n'étaient pas politisés dans le bon sens du terme, donc des gens isolés un peu, qui se sont tous retrouvés comme ça sur des ronds-points sans que ce soit vraiment structuré. Et ensuite, on a eu ces épisodes de violence qui ont discrédité le mouvement, et ça a totalement parasité le message. Mais moi, je suis convaincu qu'effectivement, un petit peu comme pour les printemps arabes, avec ce jeune homme qui s'était immolé, qui avait déclenché, c'est une histoire de la goutte qui va faire déborder le vase. La goutte qui fait déborder le vase, elle est de la même taille que les autres, mais il faut que c'est le moment où ça déborde. Et je pense qu'aujourd'hui, le ferment est toujours le même.
Merci beaucoup, Olivier, depuis la Seine-Maritime. On se refait un tour de table, évidemment, sur ce sujet. Michaël Darmon, il y a quand même... Il y a un terreau, il y a un terrain.
Les ronds-points sont dans les têtes maintenant. C'est-à-dire que à partir de maintenant, il y a, on voit bien une sorte d'infusion politique, très certainement, et on l'a vu en partie au moment des européennes, un rendez-vous dans les urnes, notamment avec le vote pour le Rassemblement national, qui a beaucoup bénéficié de cela. Concernant ce qui est en train de se préparer avec les mobilisations sociales, le gouvernement va faire face maintenant au fond, ce qui est aussi la conséquence des Gilets jaunes, c'est aussi une forme d'archipel des conflits. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'il y aura une convergence des mécontentements, il y aura beaucoup de conflits partout. Et cela, les syndicats l'ont bien compris. Et eux, leur enjeu, c'est de reprendre un an après le contrôle de la contestation sociale, qui leur avait échappé parce que c'était les Gilets jaunes qui étaient venus leur voler la vedette. Et ils étaient impuissants et totalement sur le côté. Là, ils ont été, de fait, ils sont remis au premier rang. Et de fait, ce sont eux qui organisent maintenant les manifestations. Vont-ils reprendre cette contestation ? Ça, on le verra bien.
Il y a une échéance électorale, les municipales, dans 5 mois. Juste d'un mot, Gérard Carrérot, Alexis Poulain, parce que Alexis, vous me disiez juste avant qu'ils vont exister justement dans cet objectif-là. Moi, je me souviens des européennes, il y avait des listes potentiellement, il y avait des candidatures qui fleurissaient, finalement, rien. Et même Jean-Luc Mélenchon, qui soutenait ce mouvement, n'en a pas bénéficié.
Non, mais parce qu'il n'y a pas un vase électoral qui fait qu'on vote pour quelque chose. Mais par rapport le mouvement, en fait, commence par des gens qui en ont marre d'être pris pour des abrutis, en disant toutes vos taxes, c'est toujours les mêmes qui payent et ça suffit. Et ce mouvement-là, effectivement, il n'a pas bougé. On parlait des prix à la pompe, mais oui, c'est les mêmes qu'à l'époque du mouvement. Et c'est pas forcément des votes dans l'immédiat, dans des échéances comme les municipales, mais c'est plus par rapport à 2022, où là, le pari que ferait Emmanuel Macron face à Marine Le Pen serait extrêmement dangereux parce qu'il y aurait tellement de votes contestataires qui pourraient aller, même sans soutenir Marine Le Pen, mais simplement par dégagisme, en disant « si c'est ça le choix, eh ben, cette fois-ci, on va y aller ». Et fini le barrage républicain. C'est là le danger réel. Et par ailleurs, le fait que cette politisation des gens par le mouvement, eh bien, elle est là pour longtemps. Et derrière, peut-être, il y aura un mouvement citoyen aussi qui va monter sur la 6e République, le RIC et tout ce qui était les revendications
qui ont été qui ont été aussi un peu touffues sur la fin et dont on avait du mal.
Je crois qu'on arrive à je crois qu'ils ne seront pas plus dans les urnes qu'ils l'ont été au moment des européennes, mais par contre, on les trouvera dans la rue. Et je pense que ce que dit Michaël Darmon est juste. À partir du moment où les syndicats ont repris le contrôle des événements, il y aura du monde un peu partout, je pense. Lors des manifs, lors des rassemblements, etc. Et là, les Gilets jaunes seront un petit peu aspirés par ces mouvements. Ils iront parce qu'ils diront « bon, ben, c'est pas nous tout à fait, mais c'est un peu nous quand même ».
Merci aux grandes voix ce soir, Gérard Carrérot, Michaël Darmon, Alexis Poulain. Merci à tous les trois d'être venus à ce micro. Europe 1.